Le secret de Vipéra. Malika cachait le ballon sous son pull, bien au chaud. Exactement comme sa maman qui attendait sa petite sœur, et qui l'attendait dans son ventre, pas devant l'école. La cloche hurla, et les enfants aussi. Récré. Malika accoucha sans remords ni douleur de son ballon, tout chaud. Le ballon jaune à carrés noirs jaillit du pull, passa de main en pied, s'éleva haut et droit dans le ciel pour narguer un instant le fragile soleil de brume du matin, puis rebondit sur terre plusieurs fois en la faisant presque trembler.
« Les kamikazes avec moi !»
cria Malika. La moitié des enfants de l'école, filles et garçons, les kamikazes, la suivirent côté droit, soleil dans les yeux, mais vent dans le dos.
Les Esquimaux en rang derrière moi,
gronda calmement Drac. L'autre moitié des enfants, les Esquimaux, se rangea derrière lui, côté gauche, soleil dans le dos, mais vent de face. Les kamikazes et les Esquimaux étaient parés pour le grand affrontement, le grand combat, la finale des finales, la 150e finale des finales depuis le début de l'année. Comme à chaque récré, on plaça le ballon jaune à carré noir au centre.
Prêt ?
Stop !
Hé, le bûcheron, qu'est-ce que tu fous ?
Hurla soudain Malika. Le bûcheron, c'était Enzo, c'était le défenseur des kamikazes, la tour de contrôle, le mirador, le phare et aussi celui qui tirait le plus fort.
Hé, Enzo, mène-toi, on commence !
Cria toute l'équipe des kamikazes. D'un même cœur de supporters. Enzo se tenait assis, le dos appuyé à l'un des piliers de béton du préau. Les yeux grands ouverts, trop grands ouverts, mais vides. La bouche mi-ouverte, le corps tout mou, mais convulsé de temps en temps, parcouru de secousses, mais à rythme régulier. Comme des frissons qui s'éternisent après une crise de nerfs. Comme drogué. C'était cela l'impression qu'il donnait. Drogué.
Enzo !
Malika, capitaine et gardienne des kamikazes, qui tenait donc particulièrement à avoir Enzo devant elle sur le terrain, courut vers le préau. Corentin, l'attaquant des kamikazes, courut à son tour.
Enzo, réponds ! Ça ne va pas ? T'es malade ou quoi ?
La bouche pas plus ouverte, les yeux pas moins vides. Regard circulaire du gardien et de l'attaquant. Diagnostic commun. Malika et Corentin ne mirent qu'un instant à mettre un nom sur les symptômes. La woke mania. C'est Peggy qui avait trouvé le nom il y a une semaine. La woke mania. Une vieille maladie oubliée. Un fléau. Encore plus contagieuse que n'importe quelle maladie contagieuse. Enzo était le premier des copains à attraper la woke mania. Mais pas le premier de l'école, ni même de la classe. Les yeux, la bouche, le corps ailleurs, saleté de Walkmania. Ils détaillèrent, ils savaient où chercher la preuve, comment en avoir la certitude. Un petit fil noir, presque invisible, descendait de l'oreille d'Enzo jusqu'à son cœur. La Walkmania. Du préau, Corentin et Malika observèrent la cour avec l'œil comptable de l'instituteur en récréation. La quasi-totalité des troncs d'arbres, des piliers de préau, des bancs de l'école étaient occupés par des walkmaniacs dans l'état d'Enzo. Peut-être une quinzaine au total. Déjà. Dire que le premier cas de walkmania s'était déclaré il y a à peine un mois. Malgré les cris, malgré les chuchotements, malgré les encouragements des kamikazes et les insultes des Esquimaux, puis l'inverse, Enzo demeura dans son monde. À part. Ailleurs, comme drogué. La Walkmania. Les kamikazes de Malika se prirent 3 buts pendant les 5 minutes de récréation qui restaient. Corentin, ce matin-là, joua défenseur et ne défendit rien du tout. Les Esquimaux ne furent pas fiers de leur victoire. Un pressentiment. Le lendemain matin, Megan, surnommée Meg Ange, attaquante roublarde des Esquimaux et vraie peste des défenses, auteur de 2 buts la veille encore, fut prise de Walkmania subite. L'autorité de son capitaine Drac n'y put absolument rien. Les jours suivants, la Walkmania continua de frapper, tirant au hasard des numéros de maillot dans les rangs des kamikazes et des esquimaux. Au bout d'une semaine, il n'y eut plus assez de bancs, de troncs d'arbres, de piliers dans la cour de l'école pour accueillir les dos voûtés des Walkmaniacs. Éparpillés aux quatre coins du grand terrain, seule survivait une poignée de kamikazes et d'esquimaux désœuvrés, même plus assez nombreux pour former une seule équipe. La cour d'école, petit à petit, se tut, comme les plages avec l'automne, comme les forêts avec l'hiver, comme les villes avec l'été. Il régna bientôt pendant les récréations un silence d'interrogation écrite. Les vieux voisins et leurs chiens qui n'aiment pas les enfants, ceux qui étaient là avant l'école, ceux dont la cour de l'école était leur jardin avant l'école quand leur maison était plus grande, ceux de l'autre côté de la haie, ceux qui disputent les enfants d'abord, qui crèvent le ballon ensuite, qui disputent la directrice après, n'eurent plus rien à faire dans le jardin et s'en furent allumer leur télé en maudissant la Walkmania. Les maîtresses, elles, bénirent la Walkmania et prirent l'habitude de boire toutes ensemble leur café, bien tranquille, bien au chaud, bien à l'intérieur, surveillant simplement la cour si calme d'un coin de carreau cassé, jamais réparé.
Bien, j'attends une réponse.
Cela faisait un bon quart d'heure. Béatrice, l'institutrice, avait pris son air sérieux. Elle tapotait le bureau avec son stylo pour décompter le temps, comme s'il s'agissait d'un jeu télévisé. Sauf que les questions sont plus faciles à la télé. Il régnait dans la classe un silence de récréation. Les premiers rangs suaient à grosses gouttes. Le reste de la classe séchait. Toc, toc, toc.
Bien, j'attends. Et j'aimerais pour une fois que ce soit quelqu'un d'autre que Dico qui réponde.
Aïe, cela se compliquait. Dico, tout le monde l'appelait Dico Dico. Dans ces moments-là, il n'y avait généralement qu'elle pour sauver la classe. Toc, toc, toc. Dehors, on entendait jusqu'au camion qui passait sur la nationale.
Bon, puisque j'ai en face de moi Vintignard... Tant pis, Dico, tu peux donner la réponse à tes camarades ?
Ouf, la classe respira. Allez, Dico, Dico, vas-y. Promis, on le dira plus que t'es la chouchoute.
Bien,
Dico, insista Béatrice,
tu peux répondre. Tu connais la réponse, alors vas-y.
Silence à entendre voler les avions en papier. Même les camions, au loin, se taisaient désormais.
Silence. Ou presque. Silence, sauf un petit souffle, comme un cœur qui battrait trop fort, comme un tam-tam avec une sourdine.
Dico ? Béatrice s'approcha de Dico. C'est vrai, c'était curieux, elle s'en apercevait seulement maintenant. Dico n'était pas assise au premier rang, comme tous les jours, mais au fond de la classe.
Dico ?
Dico fixait la fenêtre. Elle qui d'habitude ne regardait que le tableau. La bouche un peu ouverte, les yeux brouillés, les doigts croisés sur un stylo qui dessinait mécaniquement sur la table des gribouillis de maternelle. La Walkmania.
Dico!
Un petit fil noir descendait de l'oreille de Dico jusqu'à son cœur. Il n'était plus que quatre. Malika, Drac, Peggy et Corentin. Quatre sur toute une classe à ne pas avoir attrapé la Walkmania.
Qu'est-ce qu'ils ont tous ?
Se lamentait Peggy.
Tous abrutis sans plus causer à personne, comme des légumes. On va tous y passer ou quoi ?
Tu rigoles ?
Répondit Malika.
Un légume ? Moi ? Jamais.
Drac et Corentin approuvèrent.
Il faut faire quelque chose,
continua Peggy.
On ne peut pas rester à attendre que ça nous tombe dessus.
« Mais faire quoi ?»
demanda Corentin.
« J'ai une idée !»
fit alors Peggy. Elle le dit à voix basse comme si les Walkmaniacs pouvaient entendre. Les quatre se resserrèrent.
« Créer un conseil de résistance, tous les quatre. On l'appellerait le
Le dernier carré, par exemple. Ce sera notre nom de code. Un carré pour se serrer les coudes à quatre pour ne jamais devenir walkmaniaque.
Ouais ! Dit à son tour Malika, enthousiaste. Et pour en sortir les copains et copines, il y a quelque chose de louche là-dessous.
Ça, c'est leurs oignons, déclara Drac. Un carré pour nous défendre, d'accord, mais les autres, c'est leur problème s'ils préfèrent leur monde à eux, au monde des autres. Du moment que je ne deviens pas comme eux...
La meilleure façon de ne pas choper la Walkmania, continua Malika, c'est de trouver pourquoi les autres l'attrapent. Moi, je vous le dis, c'est bizarre, une épidémie si rapide.
Ce n'est peut-être pas une épidémie, suggéra Corentin. Ce n'est peut-être qu'une mode.
La mode, c'est la pire des épidémies, dit Peggy qui voulait faire écrivain plus tard.
Oui, mais les modes, ça va, ça vient, poursuivit Corentin. Peut-être que demain, ils en auront tous marre et qu'ils vont tous revenir jouer au ballon.
Regarde-les, répondit Peggy. Tu les as vus? Tu as vraiment l'impression qu'ils vont se remettre à jouer au ballon demain?
Méditation silencieuse.
Je vous le répète, reprit Malika. Je trouve ça louche. On dirait même pas une épidémie, une mode ou tout ce que vous voulez. On dirait un envoûtement.
Un envoûtement?
Ouais, et je m'y connais en envoûtement. Mon père a plein de bouquins.
Un envoûtement? Demanda Corentin. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui les envoûte?
Ouais,
répondit Malika.
Un marabout, un truc comme ça.
Un frisson ondula le dernier carré.
Peggy reprit la parole.
Mettons que t'aies raison, Malika. Mettons que ce soit louche. Moi, je dirais plutôt que les copains ont l'air drogués. Pour moi, la Walkmania, c'est comme une drogue.
Eh bien alors, suggéra Drac, il n'y a qu'à trouver qui leur vend la drogue.
Le dealer, ajouta tremblant Corentin. Le dealer, le marabout, je vous le dis, c'est le même,
termina Malika. Dès lors, le dernier carré entra en résistance. Le dernier carré se couchait tard. Pour se donner du courage, Corentin se mit à relire tous les soirs les livres d'énigmes de sa bibliothèque. Malika fouilla dans celle de son père. Elle passa ensuite beaucoup de temps à courir partout pour rassembler les ingrédients de poison terrible et d'antidote à ces poisons terribles. Elle ne sortait plus sans sa sarbacane dans sa poche droite et ses flèches empoisonnées dans sa poche gauche. Peggy occupait ses nuits à consigner par écrit les faits et gestes du dernier carré sur des feuilles, en double, en triple, qu'elle pliait en tout petit et qu'elle dissimulait ensuite un peu partout. Pour que, si le dernier carré disparaissait, le monde sache. Drac, lui, n'avait pas peur. Le dernier carré enquêtait. Le temps pressait. Le temps qui passait semblait donner raison aux déductions des quatre détectives. Les Walkmaniacs étaient dépendants. Et de plus en plus, à la maison, en classe, les maîtresses étaient allées se plaindre auprès des parents. Les parents étaient venus se plaindre auprès des maîtresses. Quand un adulte osait couper le fil d'un Walkmaniac, le dernier carré attentif observait tous les symptômes de l'état de manque. C'est ce qu'avait expliqué Peggy, qui avait lu une encyclopédie sur les drogues. L'adulte, lui, ne comprenait pas, mais, impuissant, laissait le Walkmaniac tranquille pour avoir la paix. Le silence des récréations se transformait en un bourdonnement. Personne ne s'en apercevait, surtout pas les maîtresses, mais le dernier carré en était certain. Les Walkmaniacs s'isolaient de plus en plus du monde extérieur. Chaque jour davantage, l'accoutumance, avait expliqué Peggy. Le temps pressait, mais le dernier carré enquêtait. Et l'enquête, heureusement, ne fut pas très difficile. Tous les Walkmaniacs se fournissaient dans un petit magasin de rien du tout, qui vendait de tout juste en face de l'école. Une fois la classe terminée, le petit magasin s'emplissait de Walkmaniacs en manque. Le dealer, le marabout, exerçait donc en toute tranquillité, à la vue de tous, juste en face de l'école. Aucun membre du dernier carré n'osa s'approcher du magasin, encore moins y entrer. Les détectives en herbe se contentèrent dans un premier temps d'étudier la boutique de loin, depuis le trottoir d'en face. Ils avaient leur technique, c'est Malika qui l'avait imaginée. Juste en sortant de l'école, un peu à droite, en bas des immeubles, les habitants déposaient leurs sacs poubelles. Au moins un sac par appartement. Cela faisait au total un très gros tas de sacs poubelles. Alors Malika eut l'idée de se déguiser en sac poubelle. Pas bête, se déguiser en sac poubelle. Pas dur et pas cher. Un peu comme un déguisement de schtroumpf. Un grand sac bleu pour le corps et un petit sac bleu aussi avec un élastique comme chapeau. Ainsi, le soir après 5 heures, au milieu de la montagne de sacs poubelles, 4 sacs avec des yeux et des oreilles, épiais, discrets. Ni vus, ni connus. Longtemps, les 4 schtroumpfs détectives durent se contenter d'observer la façade de la boutique. Un magasin bizarre rien que dans ses proportions. Tout petit vu de la rue, avec une vitrine minuscule, mais très profond, comme un tunnel sombre dont on ne sait pas s'il y a une sortie ou un mur au bout, avec des rayons longs et la caisse tout au fond. Normalement, les caisses, on les met devant la porte pour empêcher les gens de partir sans payer. Mais la boutique ne donnait pas vraiment l'envie d'y voler quelque chose. Tout cela, on le devinait, parce que la vitrine était si noire que l'on voyait à peine les articles derrière, comme un vieux magasin d'antiquité. La porte du magasin était toujours fermée, et même quand un client l'ouvrait, un ressort caché la claquait aussitôt derrière lui. C'était une porte de verre épais, comme une couche d'eau, qui déforme les choses et les gens quand on regarde à travers. Sur la façade du magasin, on trouvait encore des morceaux d'affiches d'il y a très longtemps, d'avant la guerre peut-être, du genre démodé et déchiré. Au-dessus de la porte, en grosses lettres rouges sur fond noir, on pouvait lire le nom du magasin. A-N-T-A-I-S-I. Le F avait dû tomber un jour et n'avait jamais été raccroché. C'est du moins ce que pensaient les 4 détectives. Au bout de plusieurs jours de planque, quand les membres du dernier carré commencèrent à devenir de véritables sacs poubelles jusqu'à l'odeur, ils surent enfin qui vivait dans le magasin. Ils la virent sortir une fois, rien qu'une fois. Aussitôt, ils se regardèrent, chacun pour voir si chacun des 3 pensait la même chose, si le même mot leur était venu à l'esprit. Ni marabout, ni dealer, sorcière. Sans chapeau noir ni balai, mais une sorcière tout de même. Un enfant ne s'y trompe pas, même s'il ne croit pas aux sorcières. D'ailleurs, les 4 sacs poubelles tremblants ne croyaient plus aux sorcières depuis longtemps, surtout pas Drac. Avant, ils la virent et comprirent aussitôt que oui, les sorcières existaient. Même Drac, une sorcière, une vraie, une sorcière vivait en face de l'école. Sur les flancs de la montagne de sacs poubelles, gronda l'avalanche. Les 4 sacs tremblèrent dangereusement à son sommet, mais la sorcière, sans s'en soucier, rentra, et derrière elle, la porte du magasin Antésie claqua.
Nom d'un baobab, c'est bien la première fois que je vois des sacs poubelles trembler.
Les 4 sacs poubelles levèrent les yeux et virent avec horreur au-dessus d'eux un immense homme noir habillé tout en jaune, si haut, avec de grands yeux comme des billes et des mains interminables de basketteur, des mains terribles qui plongeaient tout droit vers eux.
On se tire !
Cria celui des sacs qui devait être leur chef.
Nom d'un perroquet, des sacs poubelles qui parlent,
souffla stupéfait le géant noir. Les 4 sacs, tels des lutins des décharges, s'enfuirent, traversant la rue, évidemment sans réfléchir, évidemment sans regarder, évidemment sans emprunter le passage clouté, jaillissant sur la route, caché par le camion poubelle garé.
Nom d'une gazelle, v'là la meilleure, des sacs poubelles qui foutent le camp.
La voiture surgit au bout de la rue. La voiture était grosse, donc le monsieur au volant se croyait important. Donc le monsieur au volant était pressé. Il avait décidé que le panneau « École ralentir » ne servait plus à rien après 5 heures, que le panneau « Pensez à vos enfants » ne le concernait pas puisqu'il n'en avait pas, que tant qu'il ferait partie du conseil municipal, le ralentisseur devant l'école, que les parents réclamaient depuis toujours, ne serait jamais installé.
Entre les quatre sacs poubelles qui allaient surgir sur la route derrière le camion Ben et la grosse voiture noire couleur corbillard qui roulait à tombeau ouvert, le seul espoir résidait en un tout petit feu tricolore. Mais ce tout petit feu tricolore ne surveillait aucun croisement. Il se contentait de faire la sortie de l'école. À l'heure de fin des classes, il se mettait à clignoter. Le reste du temps, comme maintenant, le petit feu restait toujours vert. À ce moment-là de l'histoire, ce serait plus facile de raconter avec des images, en utilisant le ralenti. Avec des mots, c'est plus difficile. Bien sûr, je peux vous demander de ralentir votre lecture, mais ce n'est pas pareil, et vous n'êtes pas forcé de le faire. C'est difficile parce que tout se passa à peu près en même temps. Les sacs poubelles, le corbillard, l'accident inévitable. L'éboueur basketteur noir se retourna alors vers le feu vert et le regarda quelques instants. Et immédiatement, sans doute pour la première fois de sa vie, le petit feu vert passa au rouge. La voiture noire, surprise, eut juste le temps de piler en mangeant la moitié du passage clouté. Les sacs poubelles traversèrent la route sans s'apercevoir du danger auquel ils venaient d'échapper. Tout juste sentirent-ils derrière eux une odeur de frein, parfum caramel. Les quatre sacs se sauvèrent sans se demander pourquoi ni dire merci. Enfin, pas les quatre, les trois. Le dernier sac poubelle se retourna vers le basketteur éboueur qui commençait déjà à faire des paniers à trois points avec les sacs dans la benne. Ce dernier lutin de plastique bleu, c'était Corentin. Il avait compris quelque chose. Corentin et le basketteur se regardèrent, chacun d'un côté de la rue.
« Merci !»
dit Corentin.
« De rien !»
Le géant cligna de l'œil comme un gardien qui fermerait les yeux sur l'évasion de quelques condamnés.
« Tu t'appelles comment ?»
D'ordinaire, Corentin était plutôt timide. Mais un éboueur qui commande à distance au feu tricolore, cela l'intriguait.
« Corentin !»
Corentin s'obligea à oublier encore un peu plus sa timidité. Un géant noir qui commandait aux objets, cela pouvait être utile, surtout pour lutter contre les sorcières.
« Et toi, tu t'appelles comment ?»«
Moi, cela n'a guère d'importance, mais les gens du quartier m'appellent Loulou. »«
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»«
Comme tu vois, je ramasse les poubelles pour la mairie. Je suis un peu jardinier aussi. »
Et un peu basketteur?
Oui, quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais jeune.
Et un peu sorcier?
Peut-être un peu.
Alors Corentin dit comme ça, bêtement, sans réfléchir,
« Ça te dirait d'entrer dans le dernier carré? »
On n'entre pas n'importe comment dans le dernier carré. Dans un vague terrain connu seulement des quatre détectives, Loulou subissait un interrogatoire serré.
Corentin prétend que tu es sorcier, demanda Drac.
Que tu es magicien,
corrigea Malika.
Un petit peu,
nuança Peggy.
Un petit peu beaucoup,
ajouta Corentin.
Oh, ne vous faites pas trop d'illusions, protesta Loulou. Je connais juste quelques petits trucs, quelques petits secrets, des petites confidences que j'ai retenues, c'est tout.
Drac se marrait, incrédule. Corentin et Malika écoutaient pour trois. Peggy grattait feuille sur feuille.
« La sorcière, tu la connais ?»
demanda Malika.
« Bien sûr !» répondit Loulou. « Vous savez, elle a toujours habité le quartier, comme moi. Elle a presque le même âge que moi. Alors, évidemment... »«
Vous étiez à l'école ensemble ?»
s'écria Corentin.
« Eh oui !»
« Et elle s'appelle comment ?»
Son vrai nom, je l'ai oublié, mais tout le monde l'appelait Vipéra.
Un nouveau frisson parcourut le dernier carré, sauf Drac, peut-être.
« C'est vraiment une vraie sorcière ?»
demanda encore Corentin.
« C'est un peu plus compliqué que cela, » raconta Loulou. « Au début, Vipéra était une petite fille comme toutes les autres petites filles. » Sauf qu'au lieu d'aimer se déguiser en fée, elle préférait se déguiser en sorcière. Elle aimait paraître laide méchante, cruelle, mais elle ne faisait de mal à personne. Et puis, elle est restée comme ça, la sorcière du quartier, comme il y a un facteur, un boulanger, un ramasseur de poubelles. Comme un vieux métier qui ne sert plus à rien, mais qui fait partie du décor. Et puis, petit à petit, tout le monde l'a oublié, comme on oublie ses vieux métiers. Sauf que...
Sauf que quoi ?
Demanda encore Corentin. Sauf que les gens auraient mieux fait de ne pas oublier Vipéra.
Mais tu disais que les sorcières n'étaient pas vraiment méchantes ?
C'est vrai. La grande majorité des sorcières qui vivent encore ne sont pas dangereuses. Au contraire, elles se cachent, elles sont plutôt malheureuses. Plus personne n'a peur d'elles. Pire, plus personne ne croit en elles. Plus aucune petite fille ne veut devenir sorcière. C'est fini, c'est encore un métier qui se perd.
Comme les curés ?
Demanda Malika. Un peu, c'est l'inverse, mais c'est pareil. Donc, Vipéra, notre sorcière du quartier, était aussi inoffensive que toutes les autres sorcières des autres quartiers. Elle se livrait simplement, toute seule, en secret, à ses expériences au fond de sa cave. Elle n'embêtait plus personne, jusqu'à ce que...
Jusqu'à ce que quoi ?
Redemanda Corentin, de plus en plus impatient. Silence de confidence. Crissement du stylo de Peggy qui dérape sur le papier. Jusqu'à ce qu'elle découvre l'antésie. Regard consterné. Le stylo de Peggy zigzaga sur sa feuille.
Quoi ? L'antésie ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un grand secret, continua Loulou, qui aimait visiblement libérer les secrets. L'antésie, si vous voulez, c'est le contraire de la fantaisie, un raccourci d'un mot qui serait anti-fantaisie. Cela vient de là, l'antésie. À force de trifouiller au fond de sa cave, de faire ses expériences, Vipéra a fini par découvrir l'antésie. Enfin, à la découvrir. Disons plutôt à isoler l'antésie. Un peu comme les savants réussissent un jour à isoler un gaz, l'oxygène par exemple. Cela ressemble un peu à un gaz, l'antésie. Il y en a partout dans l'air, invisible, inodore, mais aussi respiré que l'oxygène.
Et c'est grave, l'antésie ?
S'inquiéta Corentin. Drac ne se marrait plus. Peggy n'osait plus écrire. Si l'on veut, comment vous expliquer ? En quelque sorte, c'est l'antésie qui fait vieillir. C'est elle qui fait passer de l'âge enfant à l'âge ado, de l'âge ado à l'âge adulte, de l'âge adulte à l'âge adieu. C'est l'antésie qui creuse les rides. C'est l'antésie qui blanchit les cheveux.
Alors, l'antésie, c'est normal ?
Demanda Corentin un peu rassuré.
L'antésie, c'est comme la vieillesse ?
Si l'on veut, pas exactement. Comment dire ? L'antésie, c'est un peu comme de la poussière invisible. Elle se colle sur vous, sur votre visage, bien sûr, comme la vieillesse, mais surtout, elle se colle sur vos rêves. Elle les grise comme vos cheveux. Elle les rend moins brillants, moins lumineux. En quelque sorte, elle vous aide à y renoncer. C'est cela, l'antésie. L'antésie vous aide à faire petit tout ce que vous espérez grand quand vous êtes jeune. Les voyages, les passions, les rencontres. C'est comme cela qu'elle vous fait vieillir, l'antésie, en se collant sur vos rires, vos délires, vos jeux. Elle vous colle progressivement à votre fauteuil, chez vous. Puis, elle s'accumule devant vos fenêtres, vos portes invisibles, mais plus opaques que n'importe quel rideau, double rideau, triple rideau.
Mais à deux, s'inquiéta Corentin. Un couple, par exemple, il doit mieux résister à l'antésie ?
Hélas, non, Corentin. Au contraire, l'antésie se dépose aussi sur les couples, sur l'un, sur l'autre, sur les deux. Il paraît qu'aucun couple ne lui résiste.
L'antésie rend petit les amours que l'on croyait grands ?
Exactement.
Alors, l'anthésie, il n'y a pas moyen d'y échapper? Elle est obligatoire?
Presque. Certains résistent plus que d'autres. Mais au bout du compte, l'anthésie nous attend tous.
On doit quand même pouvoir faire quelque chose,
cria soudain Malika.
Contre elle, répondit Loulou, il faut aérer les maisons. Tout ouvrir, mettre beaucoup de lumière, du bruit, de la musique, pour éviter qu'elle puisse se déposer, qu'elle puisse s'accumuler. Son ennemi, c'est le mouvement. Parce qu'en fait, l'anthésie est terrible, comme la vieillesse. Mais comme elle, elle est naturelle. Par contre, l'anthésie devient très dangereuse quand elle stagne, quand elle s'accumule. Dans certaines maisons, quand on le sait, on peut presque sentir l'anthésie sur les épaules des gens comme des pellicules. L'anthésie s'accumule sur eux, s'accumule entre eux et les autres, crée un voile devant leurs yeux, crée un voile devant leur bouche, crée un voile devant leurs oreilles. Les enfants se regardèrent. La description de Loulou leur rappelait à tous la même chose, la Walkmania.
Mais le pire, continua Loulou, c'est que je crois que l'anthésie se développe. On dit que certains gaz se raréfient, mais je crois, moi, que l'anthésie est de plus en plus importante dans notre monde. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que les techniques modernes fonctionnent beaucoup à base d'anthésie. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup d'anthésie utilisée, rejetée par les jeux vidéo, par les ordinateurs, par la télévision. De l'anthésie à trop de doses, à doses nocives. Beaucoup savent, sans doute, les savants, mais personne n'en parle.
Et tu dis que Vipera a réussi à isoler l'anthésie ?
S'inquiéta Peggy.
Oui, c'est ce que l'on raconte. Elle serait capable d'isoler l'anthésie, de la stocker, de l'accumuler, et puis ensuite de s'en servir.
La Walkmania, continua Peggy, ces trucs fonctionnent à l'anthésie ?
Je crois, j'en suis presque sûr, de l'anthésie concentrée.
Corentin rêvait. Drac restait incrédule. Peggy referma son carnet. Malika explosa.
« Loulou, si tu es un magicien, tu ne peux pas la laisser faire. Il faut que tu fasses quelque chose. »«
Tu sais, je n'ai pas grand pouvoir. Et puis, elle me connaît. Et puis, c'est à vous, les enfants, qu'elle en veut. C'est à votre jeunesse. C'est à vous de vous défendre. »«
Comment ?»
cria presque Malika.
« À ma connaissance, il n'y a qu'une seule façon, la défier. Comme toutes les sorcières, Vipera est très fière et très joueuse. Elle ne refusera jamais un défi. Il vous suffira juste de gagner ce défi. Le problème... »
« Le problème ?»
demanda Malika.
« Le problème, c'est que Vipera est tout de même une sacrée sorcière depuis le temps. Elle en connaît de la magie. La défier, c'est perdre à tous les coups. » Surtout pour des enfants comme vous.
Tu rigoles ?
Cria Malika, piquée au vif.
Elle ne me fait pas peur, ta sorcière et son anthésie.
À quoi espères-tu la défier ? Demanda Loulou.
Un jeu d'adresse, n'importe quel. Je suis la meilleure de l'école, la meilleure de tous.
Sans vouloir te vexer, j'ai peur que cela soit un peu insuffisant. Tu sais, elle est magicienne.
Tant pis, continua Malika. Je n'ai pas peur. Il faut bien essayer quelque chose.
Nom d'un buffle, tu me plais bien, mais ça ne servira à rien de te sacrifier. Voyons, pour t'aider, il te faudrait un peu de magie, pour te donner un peu de force supplémentaire. Voyons, réfléchissons. Si on essayait l'héritière.
L'héritière ?
Demanda Malika étonnée.
Ben oui, l'héritière, la princesse de l'arbre.
« La princesse de l'arbre ?»«
Décidément, on ne vous apprend plus rien à l'école. Un arbre dans une forêt, dans un jardin, c'est pareil qu'un arbre généalogique. Au départ, il y a le tronc. Puis ce tronc se divise en plusieurs branches, deux, trois, quatre ou plus. Exactement comme s'il se divisait en plusieurs enfants. Puis chacune de ces branches
se redivise encore en plusieurs branches, comme des petits enfants du tronc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait des centaines, des milliers de branches dans un arbre, comme une multitude de descendants du tronc après plusieurs générations. Une multitude de petits, 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 petits enfants. Pourtant, comme dans toute famille, il n'y a qu'un seul descendant du tronc en ligne directe. Il n'y a qu'un seul archi-petit-enfant, une seule branche qui soit l'héritière directe du tronc. Cette branche, tout le monde sait qu'elle est l'héritière de l'arbre. La princesse de Sève. L'héritière, si le tronc mourait, il y en a une dans chaque arbre, une et une seule. « Et alors ?» demanda Malika, pressée d'agir. « Minute, j'arrive à ce qui t'intéresse. Quiconque possède cette branche, la branche héritière de l'arbre, conquiert en même temps la force de l'arbre entier. Quiconque arrache et tient cette branche acquiert un pouvoir extraordinaire. Dans une main, cette branche est plus puissante, plus redoutable que n'importe quelle épée.
« Et comment on la reconnaît, cette branche ?»
poursuivit Malika, de plus en plus intéressée.
« C'est la branche la plus haute de l'arbre ? C'est celle qui fleurit la première ? Et c'est celle qui perd ses feuilles la dernière ?»«
Non, rien de tout cela. Rien, absolument rien ne distingue la branche héritière des autres branches. Ce serait trop facile. Les arbres sont plus malins que ça. »«
Pourquoi tu m'as raconté tout ça, alors, si l'on ne peut pas reconnaître la branche héritière ?»
« Attends un peu, laisse-moi le temps de t'expliquer. Il existe tout de même un moyen de découvrir la princesse de l'arbre. Observez les oiseaux. »«
Les oiseaux ?»«
Oui, les oiseaux. Les oiseaux, d'instinct, savent reconnaître l'héritière. Et l'héritière aime porter des oiseaux sur elle. Observe bien un arbre pendant longtemps. Tu t'apercevras au bout d'un moment que les oiseaux se posent presque toujours sur la même branche. Celle-ci est l'héritière. Malika appliqua à la lettre les conseils éclairés de Loulou. Dans le grand parc, Malika se cacha en face du grand chêne, le plus grand de tous. Pendant presque une journée entière, elle observa les oiseaux. Et il y en a des oiseaux en une journée qui passent dans un parc, à croire qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Le soir, Malika n'avait plus de doute. Les oiseaux se posaient presque toujours sur la même branche, pas la plus haute, pas la plus grande, pas la plus forte. Une branche apparemment comme les autres. Juste avant que le soleil rouge ne descende derrière l'arbre, Malika grimpa dans le grand chêne et arracha la branche héritière. Pas très fière, pas fière du tout même. Avec un terrible remords. Elle s'éloigna alors le plus rapidement possible du chêne. Branche héritière en main, sans se retourner. Un peu, beaucoup, honteuse. Même si c'était pour la bonne cause. Même si c'était pour lutter contre une sorcière. Dans son dos, le soleil rouge descendu derrière l'arbre la poursuivait comme l'œil furieux immense d'un chêne cyclope. Une fois sortie du parc, la nuit tomba un peu, et le remords de Malika aussi. Malika, bâton en main, se sentait invulnérable, géante elle aussi, puissante, une fille de D'Artagnan qui vivrait masquée, capée de noir dans la forêt de Sherwood, sur l'île du pays imaginaire. Malika y était presque, presque devant le magasin Antésie. C'est là qu'elle aperçut la petite vieille clouée sur le passage piéton. La petite vieille, elle la connaissait bien. Tout le monde dans le quartier l'appelait la reine Margot. Margot, parce qu'elle s'appelait Marguerite. La reine, parce qu'il paraît qu'elle était très belle dans le temps et qu'elle avait été reine de quelque chose. Les garçons l'avaient surnommée ainsi dans le temps et le nom était resté, même si Margot, aujourd'hui, n'avait plus rien d'une reine. Elle vivait encore, à peine, avec peine, lentement et silencieusement. De supérette en supérette, selon la pluie. De banc en banc, selon le soleil.
deux châles fleuris en robe fanée, quelle que soit la météo. D'hier en avant-hier, de semaine dernière en mois dernier, d'hiver dernier en dernier hiver. De trottoir d'en face en trottoir d'en face, lentement, à même pas un à l'heure, comme pour rechercher la délivrance, comme ça, par accident, à la tombée de la nuit, comme pour tirer un peu le destin par la manche. La reine Margot était au pas, même pas sur les bandes zébrées, en plein milieu de la rue, bloquée, tordue, bouleversante, renversante, ne demandant que cela, d'ailleurs. Malika se sentait si forte, si héroïque, si protégée, puisque sa mission était juste. Elle n'hésita pas une seconde. Elle offrit sa branche à Margot pour qu'elle puisse traverser la rue, pour qu'elle puisse continuer son chemin encore un peu. Malika lui laissa la branche héritière comme une canne un peu magique. Elle se sentait si forte, avec ou sans branche. Sa mission était juste, deux fois plus juste maintenant. Elle entra la seconde d'après dans le magasin Antésie, fière, auréolée, sans penser une seule seconde que sa mission pouvait échouer. La porte du magasin sombre claqua derrière elle. Une minute après, peut-être un peu plus, la porte se rouvrit et Malika ressortit, les yeux grands ouverts et vides, la bouche entrouverte, mais désormais incapable de s'ouvrir ou de se fermer davantage, pour parler ou pour autre chose. Le dernier carré devenait le dernier triangle. La Walkmania. Un petit fil noir descendait de l'oreille de Malika jusqu'à son cœur.
Nom d'un butor, pourquoi n'est-elle pas entrée avec la branche héritière dans le magasin ?
Hurlait Loulou aux trois derniers détectives.
C'est bien la peine que je vous dévoile des secrets. Quelle tête de mule ! Quel gâchis ! Arrachez pour rien l'héritière du grand chêne.
C'est mon tour. Je veux y aller,
dit alors simplement Peggy.
Nom d'un coyote ! Et comment comptes-tu la défier, Vipéra ? Demanda Loulou.
Peggy s'était préparée. Parce que je sais faire de mieux. Imaginer et raconter. Je connais toutes les histoires, tous les contes du monde entier. Je lui en raconterai qu'elle ne connaît pas.
Nom d'un croco, ce n'est pas si simple. Sans te vexer, je pense qu'elle doit connaître toutes les histoires que connaît une petite fille, même avec beaucoup d'imagination.
Boudry vexé quand même de Peggy.
Attends, c'est tout de même une bonne idée, reprit Loulou pour se faire pardonner. Il faut juste que je t'aide un petit peu. Tu devrais aller lire un poème du vent.
Un poème du vent ?
Demanda Peggy, sortant immédiatement de sa bouderie.
Un poème du vent, évidemment.
Tu prétends avoir de l'imagination, et tu ne connais pas les poèmes du vent.
Enfin bon, approche-toi, je vais t'expliquer. On dit souvent que le vent joue de la musique, en soufflant entre les herbes, entre les feuilles, entre les maisons. Il souffle, un peu comme s'il parlait, comme s'il possédait son propre langage. Cela, tout le monde le sait. Il y a des gens qui restent seuls, dehors, et qui écoutent le vent. Peut-être qu'il y a encore des gens qui parlent son langage. Par contre, ce que tout le monde a oublié, c'est que le vent écrit aussi. Le vent écrit des poèmes.
« Des poèmes ?» demanda Peggy. « Mais à qui ?»
À la terre, bien sûr. À qui veux-tu que ce soit? Le vent est voyageur. Il est même le seul dans la nature à voyager sur la terre depuis l'éternité. Il passe son temps à faire le tour de la terre. Il voit, il observe, il découvre. Puis, il raconte. Le vent, c'est le concierge de la planète. Il adore écouter les histoires, toutes les histoires, des petits ragots aux contes de fées. Et il prend encore plus de plaisir à raconter à la Terre qu'il retrouve les histoires de la Terre qu'il vient de quitter. Il raconte les histoires de l'Amérique à l'Europe, les histoires de l'Europe à l'Asie, les histoires de l'Asie à l'Australie. Ainsi, le monde connaît tout le monde.
C'est un peu comme Internet alors,
Si tu veux, on est un peu plus poétique.
Loulou, tu as dit qu'il écrivait des poèmes à la terre. Mais le vent ne possède ni encre ni papier.
Petite futée, écoute-moi bien. Le papier du vent, c'est la mer. Tu as déjà observé la mer? La mer, même très calme, n'est jamais régulière. Elle est ridée, ondulée de vagues. Des vagues qui forment sur elle à l'infini. Des lignes qui naissent, puis qui vont se jeter contre le rivage. Ces lignes d'écume, bien droites, bien les unes après les autres, régulières, elles ne te rappellent rien? Elles ne te rappellent pas les lignes d'une écriture fine sur une page blanche? Le visage de Peggy s'éclaira.
Maintenant que tu me le dis!
Eh oui, continua Loulou. C'est évident quand on le sait. La mer est une immense page sur laquelle écrit le vent. Des histoires, des poèmes, pour distraire les rivages. Que la terre lit ligne après ligne. Et le poème disparaît à peine quelques instants après avoir été écrit. Chaque ligne se brise aussitôt lue, comme une lettre que l'on déchirerait en mille morceaux. C'est pour cela que les poèmes du vent, ces immenses et interminables poèmes d'outre-mer, sont uniques et éphémères. Sitôt écrits, sitôt lus, sitôt oubliés.
Mais,
s'excita Peggy,
comment on les lit ces poèmes?
Patience, mademoiselle, il n'y a rien de plus simple. Prends une photographie de la mer, puis agrandis-la mille fois. Puis mille fois encore, puis 10 000 fois encore s'il le faut. Et à un moment, forcément, sur ta photo, au lieu des vagues sur la mer, tu verras apparaître des lignes d'écriture sur une page. Silence de pierre, comme pour chercher ce qui clochait encore dans tout cela.
Mais,
demanda-t-elle soudain,
dans quelle langue écrit-il, le vent ? « Je ne connais pas la langue du vent. »«
Petite maligne, le vent n'est pas si bête. Il écrit ses poèmes dans la langue du rivage vers lequel il souffle. En anglais, un peu plus haut, en arabe, un peu plus bas, en français, pour nos falaises. »«
Les pays qui n'ont pas de mer, ils doivent être malheureux, »
pensa tout haut Peggy. Peggy emprunta le jour même, discrètement, l'appareil photo de son père, celui avec lequel il va à la chasse, comme il dit, la chasse intelligente et inoffensive. Elle prit donc l'appareil photo et alla photographier la mer du haut des falaises. Une seule photo. Elle n'osa pas en prendre plus. La mer était d'ailleurs particulièrement agitée. Une histoire d'aventure, sans doute. Peggy passa le reste du jour sur l'ordinateur de son père. Elle agrandit la photo 1000 fois, puis encore 1000 fois, puis encore 1000 fois, et rien. Toujours des vagues, de plus en plus floues. Et si le vent n'écrivait rien du tout? Et si Loulou inventait, ou se trompait, ou n'y connaissait rien? Et si... C'est évidemment toujours à ce moment-là, à ce moment précis où l'on va tout abandonner, au dernier moment, que la solution surgit, évidente, souriante, comme si elle attendait depuis un moment cachée dans l'ombre, ayant écouté, amusé, jusqu'au bout notre incrédulité. Un dernier agrandissement, s'était dit Peggy. Un dernier, au pif, un chiffre au hasard. Immédiatement, sur le papier blanc disparut la mer, et apparut une page d'écriture fine et régulière. Un poème, une histoire que Peggy dévora. Une histoire merveilleuse, incroyable. Une histoire que je vous raconterai bien, mais l'on n'a pas le temps. Et si je commence à mélanger les histoires, à raconter des histoires à l'intérieur de mes histoires, on ne va plus rien comprendre. Et puis l'histoire ne peut être utile à Peggy que si elle demeure secrète. Et puis, si vous avez vraiment envie de les lire, les poèmes du vent, maintenant, vous connaissez leurs secrets. Peggy cala bien l'histoire au creux de sa mémoire et s'en alla défier Vipéra dans son magasin. Sûre d'elle, sûre de son art. Un peu avant d'apercevoir les lettres défraîchies en taisie, quasiment devant l'école,
elle passa devant Margot. Il faisait beau et Margot se faisait zébrer sur un banc. La bouche mi-ouverte, les yeux mi-clos, mais sans fil noir, sans aucune trace de Walkmania, simplement de la vieillesse et de la nostalgie. De l'antésie, mais naturelle.
Peggy eut pitié. Elle eut pitié de Margot, qui toute la journée tournait en rond dans son crâne, pas plus grand que sa chambre de la maison de retraite.
Dans des souvenirs trop petits, parce que toute sa vie, elle avait croisé les mêmes gens, au même endroit, avec les mêmes mots. Peggy eut alors envie d'élargir l'horizon des rêves de Margot, de l'emmener en voyage, un voyage bien plus beau que tous ceux que Margot espérait gagner quand elle était jeune. Tous ces jeux qui vous promettent une évasion, mais seulement après que vous avez acheté une grille.
Peggy raconta le poème du vent à Margot, comme ça, sans réfléchir, et Margot n'eut pas assez de mots pour la remercier.
Peggy, désormais, se sentait si protégée, si talentueuse. Sa mission était juste, deux fois plus juste maintenant. Même si elle ne pourrait plus se resservir du poème du vent contre Vipéra, elle se sentait irrésistible. Elle entra la minute d'après dans le magasin Antésie. Fière, auréolée, sans penser un instant que sa mission pouvait échouer. La porte du magasin sombre claqua derrière elle. 5 minutes plus tard, à peine, la porte se rouvrit et Peggy ressortit, les yeux, la bouche, le corps ailleurs, absent, perdu. Le dernier triangle devenait la dernière ligne, la Walkmania. Un petit fil noir descendait de l'oreille de Peggy jusqu'à son cœur.
« Nom d'un babouin !» hurla Loulou. « Pourquoi a-t-elle été raconter son histoire à Margot ? Pourquoi n'a-t-elle pas gardé son poème du vent pour Vipéra ? On la tenait ce coup-là »
« Par pitié, par gentillesse pour Margot ?»
lança timidement Corentin.
« Par pitié ? Tu parles ? Nom d'une autruche, c'est tout le contraire !» C'est parce que vous êtes beaucoup trop fiers, comme des girafons. Aussitôt que vous possédez un peu de pouvoir, vous redressez le cou jusqu'à en attraper un torticolis. À quoi ça sert que je prenne le risque de vous livrer de tels secrets, purée de manioc? On se creuse la cervelle pour vous livrer une sorcière toute cuite dans sa marmite, et vous trouvez encore le moyen de tout faire déborder.
« Moi, » dit alors calmement Drac, « c'est à mon tour. » « J'y vais. »«
Tiens !» demanda Loulou moqueur. « Et comment comptes-tu la défier ?»«
Avec ma concentration. C'est tout. Je suis imbattable. Par exemple, si l'on se regarde dans les yeux avec quelqu'un en attendant de savoir qui rira le premier ou même qui sourira, je peux tenir des heures. Je n'ai jamais perdu. Personne ne pourrait me faire perdre ma concentration, encore moins une sorcière. »
Loulou eut un sourire amusé. Encore moins une sorcière. Puis il regarda un instant dans les yeux fixes de Drac. Loulou toussota.
Excuse-moi. Finalement, je te crois. Tu n'es qu'un tout petit garçon et Vipéra une grande sorcière. Mais je te crois quand même capable de garder ta concentration devant elle.
Le seul problème, continua Drac, c'est que, par contre, à ce jeu-là, je n'ai jamais su faire rire quelqu'un, ni même sourire. Alors une sorcière...
Ah ! S'interrogea Loulou en se grattant la tête. Tu n'as jamais su faire rire, ni même sourire quelqu'un ?
Il regarda une nouvelle fois Drac.
Ouais, fit-il. Évidemment, ce n'est pas gagné. Voyons, il n'y a qu'une solution. Tente ta chance. Fais un vœu de l'orage.
Un quoi ?
Demanda Drac, que pourtant pas grand-chose ne surprenait.
Un vœu de l'orage. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais essayé d'en faire un. Nom d'un œil de cyclone, les jeunes ne savent vraiment plus rien. Ils ne connaissent même plus les vœux de l'orage. De mon temps, à chaque orage, tous les enfants sortaient dehors et essayaient. C'était la tradition. Tout le monde sait que l'orage est un moment particulier,
Tout le monde le sent. Les animaux, les bébés, les plantes, les hommes. Enfin, ceux qui n'ont pas la cervelle trop bouchée. Mais, vois-tu, il y a un moment encore plus extraordinaire qu'un orage.
Il ne fallait pas compter sur Drac pour répondre quand il ne savait pas.
Ce moment, continua Loulou qui aimait bien faire durer, c'est un court laps de temps où plus rien n'est tout à fait réel. Ni ce que l'on voit, ni ce que l'on entend. Un court moment où le temps est en décalage. Alors, tout peut arriver. Tout peut se réaliser.
Quand ? Demanda Drac, qui, même lui, finissait par perdre patience.
Eh bien, dit lentement Loulou de la voix d'un professeur, entre le moment où tu vois la foudre et le moment où tu entends le tonnerre. La foudre illumine le ciel en silence, puis le tonnerre gronde dans l'obscurité. Et pourtant, il s'agit bien du même éclair. Entre la foudre et le tonnerre, pendant ce court moment irréel, tout peut se produire.
Et le vœu ?
Le vœu, il faut le prononcer juste entre la foudre et le tonnerre, bien distinctement, à haute voix. Si le premier mot de ton vœu commence juste sur l'éclair, et si le dernier mot de ton vœu est pile ponctué par le tonnerre, ton vœu se réalisera.
Et s'il ne s'écoule qu'une seconde entre la fin du vœu et le tonnerre?
Même un quart de seconde, c'est perdu.
Drac apprit par cœur son vœu. Puis il s'entraîna à le réciter très vite, très lentement, sur tous les rythmes. Enfin, plusieurs jours plus tard, un soir évidemment, l'orage éclata. Drac n'avait pas peur. Il se rendit à l'endroit le plus dangereux, le plus découvert, là où il ne faut surtout pas aller un soir d'orage, un endroit bien plat pour défier l'orage droit dans les yeux. Il marcha sous la pluie, trempé jusqu'au terrain de foot. Il se planta bien au milieu, les deux pieds au centre du rond central, comme au début d'un match. Il attendit que l'orage se rapproche. Son vœu tenait en quelques secondes. Plus le vœu est bref, plus on a de chance. Enfin, l'orage en personne pénétra sur le terrain. Drac sentit l'éclair arriver. Il ouvrit la bouche au moment où l'éclair illumina le stade, comme jamais les projecteurs ne l'avaient fait. Il cria très fort « Que je sois transformé en clown !» En une fraction de seconde, Drac sentit que le tonnerre ne venait pas. Pas encore. Alors, très vite, sans réfléchir, pour ne pas laisser un quart de seconde de silence, il ajouta « Rien qu'une fois !» Le tonnerre explosa juste sur son dernier mot, comme un point d'exclamation, ébranlant le stade comme aucun applaudissement ne l'avait jamais fait. Drac le sentait. Clown, il serait, quand il le voudrait. Rien qu'une fois. Ça avait marché. Il le croyait. Il voulait le croire. Le lendemain matin, quand les premières lueurs du ciel chassent les dernières lueurs artificielles de la ville, Drac se rendit à la boutique Antési, ni confiant ni angoissé, concentré. Évidemment, Drac croisa Margot. Margot était déjà sur son banc. Peut-être avait-elle passé la nuit dessus, sous l'orage. À l'abri des regards qu'elle croyait, Margot pleurait, comme tous les matins en se réveillant, comme tous les soirs en s'endormant. Elle pleurait doucement, plus par habitude que par tristesse. Je sais ce que vous pensez. Drac va passer. Drac va avoir pitié de Margot, malgré les conseils de Loulou. Drac va faire le clown.
Mais alors, c'est que vous connaissez encore mal Drac.
Drac n'était pas du genre à avoir pitié, pas du tout. Drac était du genre à n'avoir que sa mission en tête.
Quand il passa devant Margot en larmes, il passa comme on passe devant une fontaine, indifférent. Il avait la tête occupée ailleurs. Il se demandait juste avant d'entrer dans ce magasin, « Est-ce que mon vœu de l'orage a été exaucé ?
Est-ce que le tonnerre n'a pas grondé un tout petit peu trop tôt ou un tout petit peu trop tard? Comment le savoir? Comment en être certain avant d'entrer dans ce magasin?
C'est seulement à ce moment-là qu'il vit Margot et ses larmes. Et bêtement, Drac se dit « Il n'y a qu'à tester, moi qui n'ai jamais fait rire personne. Voici quelqu'un en larmes. Voici le moyen de savoir si j'ai été transformé en clown. »
Alors Drac, qui n'avait jamais fait rire personne de toute sa vie, fit rire Margot comme elle n'avait pas ri depuis...
Depuis toujours peut-être.
Un rire léger, joyeux, un fou rire sans la moindre peur, pour une fois qu'on la prenne pour une folle.
« Ça marche !» se dit Drac, rassuré. « Mon vœu a été exaucé. »
Drac se sentit irrésistible. Il entra la minute suivante dans le magasin Antési, fier, auréolé, sans penser un seul instant que sa mission puisse échouer. La porte du magasin sombre claqua derrière lui et le bruit lui rappela le claquement du tonnerre la veille. Ce claquement, juste avant les derniers mots qu'il avait prononcés. « Clown ?»
Non. Il avait ajouté quelque chose derrière, des mots qui n'étaient pas prévus, rien qu'une fois.
Pour la première fois de sa vie, Drac eut peur. Un quart d'heure plus tard à peine, la porte se rouvrit et Drac ressortit. Drac n'avait jamais été très bavard avant, mais en sortant, sa bouche semblait définitivement muette, comme ses yeux. Drac le solitaire semblait l'être devenu à tout jamais. De la dernière ligne, il ne restait qu'un tout petit point. La Walkmania. Un petit fil noir descendait de l'oreille de Drac jusqu'à son cœur.
Pourquoi? Pourquoi nom d'une hyène? Hurlait Loulou. Il réussit son vœu et il ne s'en sert pas contre Vipéra. Dire que j'ai passé ma vie à essayer de réaliser un vœu de l'orage. Tu parles nom d'une noix de coco pour des cacahuètes. Ça n'a jamais marché. Lui, il se pointe, il a réussi du premier coup, et il trouve le moyen de ne pas s'en servir. Ah! Elle doit bien rigoler, Vipéra.
C'est à moi d'y aller,
dit Corentin doucement.
Il ne reste plus que moi.
On dirait, répondit Loulou, la dernière chance. Le dernier point.
Loulou, demanda Corentin un peu effrayé, tu ne vas pas me laisser y aller comme ça? Tu as bien un dernier petit secret à me révéler pour m'aider un peu?
Corentin ajouta, devant le regard fermé de Loulou,
j'y ferai attention, moi, je suis prévenu.
Ben voyons, bougonna Loulou. Enfin, au point où l'on en est. Qu'est-ce qui te manque le plus pour aller affronter Vipéra?
Le courage,
répondit Corentin sans hésiter.
Le courage? Bien, ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule solution. Attraper la dernière goutte de pluie, la goutte cadette.
La dernière goutte de pluie?
C'est le meilleur moyen pour donner du courage à quelqu'un qui en manque. Tu vas voir, il n'y a rien de plus simple. Il te suffit de te promener sous une averse et de recevoir la dernière goutte. Dans toute averse, il y a la première goutte, puis les premières gouttes, puis l'averse, puis les dernières gouttes et enfin la dernière goutte. C'est obligé. Il y en a toujours une dernière.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dernière goutte?
C'est la plus timide de tout le nuage. Il faut savoir que le nuage élève ses gouttes pendant des semaines, pendant des mois parfois. Il les connaît depuis qu'elles ne sont rien, juste de la vapeur. Il les voit grandir, se former, prendre des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il les protège comme un père, ou plutôt comme un grand-père un peu grisonnant, un peu blanchissant. Pourtant, le vieux nuage le sait. Un jour, les gouttes doivent le quitter. Comme les enfants quittent la maison, comme les oiseaux s'envolent du nid. C'est ainsi.
Les gouttes doivent sauter du nuage bien blanc, bien chaud, se jeter dans le vide pour aller tomber par terre, pour aller s'écraser quelque part dans un but bizarre, mouiller la terre, arroser les plantes, faire tourner les moulins. C'est le cycle de l'eau, exactement comme le cycle de la vie.
Tu parles d'une vie, grandir dans un nuage tout en haut, simplement pour un jour devoir sauter et aller s'écraser tout en bas. Ces gouttes, elles me font penser à des parachutistes pendant la guerre.
C'est un peu ça, c'est vrai. Alors, dans le nuage, il y a beaucoup de gouttes résignées. C'est la majorité. Elles pensent, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme partout, il y a les folles, les gouttes kamikazes, celles qui attendent avec impatience toute leur courte vie ce moment de sauter. Ce sont les premières gouttes d'une averse. Ensuite, il y a les hésitantes, les peureuses qui sautent quand même, mais dans les dernières. Enfin, il y a la dernière goutte, la goutte cadette. La dernière goutte, c'est toujours la goutte la plus jeune du nuage. C'est aussi la goutte la plus jolie. Alors pour toutes ces raisons, c'est la goutte préférée du vieux nuage, sa petite gouttelette chérie, un peu la chouchoute. Elle devient donc la plus timide, et quand l'heure vient, elle n'ose pas sauter, et le nuage ne veut pas non plus qu'elle saute. Elle ne veut pas quitter son vieux nuage, et le nuage pense qu'elle a raison, qu'il est stupide d'aller s'écraser quelque part lorsque l'on est si jeune, si fragile, si mignonne. Mais il le faut. Et elle saute tout de même, finalement, la dernière, après toutes les autres. Alors, imagine, si au lieu de s'écraser tristement, la petite goutte cadette est recueillie par quelqu'un en bas qui passe sur son nez, sur sa main, sur sa tête. Le passant récupérera tout le courage, toute la force qu'il a fallu à la petite goutte de pluie pour se jeter de son nuage.
Elle est très belle, ton histoire, Loulou. Mais comment savoir si la goutte que l'on reçoit à la fin d'une averse, c'est bien la dernière?
C'est difficile à savoir, vraiment. Elle est un petit peu plus chaude, un peu plus salée que les autres gouttes.
Un peu comme une larme?
C'est ça. Mais ne t'inquiète pas. Si tu reçois la dernière goutte, tu t'en rendras immédiatement compte. Tu sentiras en toi une force, un courage comme jamais. Et je suis tranquille. Ce courage, il n'appartient qu'à celui qui reçoit la dernière goutte. Tu ne peux pas l'offrir à la première petite vieille venue.
Ce printemps-là, en fin d'après-midi, l'averse tombait aussi quotidiennement que tombait la nuit. Corentin se rendit donc au magasin Antésie, sous la pluie, sous les gouttes, pour l'instant ni chaude ni salée, juste froide et mouillante. Il se planta devant le magasin ou pas loin. Sans trop de courage, mais l'averse n'était pas finie. Les dernières gouttes tristement tombaient, une à une. Margot se tenait là, elle aussi, assise sur son banc, protégée d'un parapluie sculpté et fleuri, jaune et blanc, au ton passé.
Margot proposa de partager.
Corentin forcément refusa, poliment mais fermement. Il ne voulait pas rater la dernière goutte. N'importe laquelle des gouttes qui tombaient maintenant pouvait être la dernière, pour peu qu'aucune autre ne tombe ensuite. Ce petit garçon étonnait Margot. Ce petit garçon qui aimait la pluie, qui au lieu d'éviter les gouttes comme tout le monde, semblait prendre un malin plaisir à les recevoir, à les rattraper au vol, comme pour ne pas les laisser s'écraser. La pluie, c'est ça. Le ciel se déshabilla de ses derniers voiles et apparut nu, tout bleu. Corentin ne se sentait pas plus courageux, plutôt même moins. Margot hésita, étudia le bleu du ciel et referma son parapluie jaune et blanc comme une marguerite le soir. Elle sourit à Corentin, ce petit garçon qui semblait triste que l'averse ne dure pas un peu plus longtemps.
« Je crois que c'est fini !»
lui dit-elle en essayant d'y mettre de la gaieté, en se levant lentement.
« Je crois, »
répondit Corentin sans entrain.
« Aïe !»
fit alors Margot. Elle se frotta l'œil.
« Ce n'est rien, » rassura-t-elle tout de suite Corentin. « C'est juste une goutte de pluie, une petite dernière. Apparemment, ce n'était pas tout à fait fini.
Elle rit.
Corentin aussi,
un peu par politesse. Il se disait qu'il ne se sentait aucun courage supplémentaire. Que peut-être la goutte que Margot avait reçue, c'était la dernière. Qu'alors c'était fichu. Margot était timide et son âge n'avait rien arrangé. Pourtant, ce fut elle, avec un courage et une assurance qu'elle ne se connaissait pas, qui engagea la conversation avec ce petit garçon triste après la pluie. Margot parla à Corentin des autres enfants, de ceux qu'elle connaissait, de ses amis, Malika, Peggy, Drac. Elle parla longtemps. Elle s'étonnait aussi du silence des récréations. De son banc, elle n'entendait plus les cris des enfants. Alors, à son tour, Corentin parla. De la Walkmania, de Loulou, de Lantaisie, de Vipera, du dernier carré et de son destin. Quand il eut fini, sans un mot, Margot planta Corentin sur le trottoir et entra à sa place dans le magasin Antaisie.
Quoi ? Hurlait Loulou. Quoi ? Nom d'un marigot en hiver ! Tu as laissé la vieille Margot entrer à ta place dans le magasin de Vipera ?
Ce n'est pas de ma faute, se défendit Corentin. C'est elle qui a reçu la dernière goutte.
Et alors ? Continua Loulou. Qu'est-ce que tu veux que cette pauvre Margot fasse contre Vipera ? Tu avais bien besoin d'aller lui raconter tout ça. Tu ne pouvais pas laisser Margot vieillir tranquillement.
Margot avait l'air si sûre d'elle.
C'est l'effet de la dernière goutte, c'est tout. Mais Margot n'a aucune chance face à Vipera. En plus, Margot, tu pouvais faire entrer tout le monde dans le magasin, mais surtout pas Margot.
Pourquoi pas Margot ?
Parce que
quoi ?
Parce que, si tu veux vraiment savoir, Margot est née ici, elle aussi. Elle est à l'école avec Vipera, elles ont le même âge. Mais Margot, à l'époque, était aussi jolie que Vipera était laide. Et vu comment Vipera était laide, ça te donne une idée de ce que Margot pouvait être mignonne à croquer. Et gentille avec ça, la reine Margot qu'on l'appelait. Alors, s'il y a une personne dont Vipera a été jalouse toute sa vie, c'est bien Margot, la douce Margot, l'innocente Margot. Et toi, tu la lui envoies comme ça, toute ficelée, dans son magasin, des années après.
Je ne savais pas,
bredouilla Corentin. Loulou n'écoutait plus. Tu sais, Corentin, certaines sorcières le deviennent pour cela, parce qu'on ne les a pas assez aimées quand elles étaient petites. Alors, elles ont plus de chances que les autres de devenir jalouses, de devenir méchantes, de ne rêver que de revanche, puis de vengeance. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop en vouloir aux sorcières d'être devenues des sorcières. Ce n'est pas vraiment de leur faute, mais ça ne les empêche pas d'être très dangereuses.
Margot, de son côté, elle n'est pas fée, même un tout petit peu.
Tu parles, rien du tout. Qu'est-ce que tu crois ? Ils sont rares les gens qui se souviennent encore un peu des secrets de la nature. Margot, elle est la moins magicienne de toutes les vieilles femmes que je connaisse. Elle était rusée comme une fouine. Mais face à la magie de Vipera... Pauvre Margot.
Bonjour, Vipera.
La sorcière resta un long moment à dévisager la visiteuse. Une petite vieille qui devait avoir à peu près son âge. Curieux. Depuis longtemps, elle ne recevait plus la visite que des enfants. Les vieux, les gens de son âge, ceux qui la connaissaient, l'évitaient avec précaution. Que pouvait lui vouloir cette vieille ? Ce regard, il lui disait quelque chose. Il y a longtemps.
Tu ne me reconnais pas ?
Un éclair jaune traversa les yeux de Vipera.
Margot ? La reine Margot. Margot. Eh bien,
commença la sorcière.
Tu ne peux pas mesurer à quel point cela me fait plaisir de te revoir. Aussi vieille. Qu'on soit beau ou laid, au bout du compte, on finit tous pareil, flétris comme des vieux fruits. Pourris de l'intérieur, moisis de l'extérieur. Ah, les bienfaits de l'anthésie. On ne les vantera jamais assez. L'anthésie, finalement, c'est l'égalité. Les chances sont inégales à la naissance, mais ça s'équilibre au fur et à mesure qu'on décrépit. Tu ne peux pas savoir ce que cela me fait plaisir de te revoir aussi laide aujourd'hui. On ne doit plus souvent t'appeler reine. Dommage que je sois parvenu à isoler l'anthésie un peu tard. J'aurais sans doute pu accélérer encore un peu plus ta déchéance. Mais je parle. À part cela, que me vaut le plaisir de ta visite, très chère Margot?
Les enfants, ta Walkmania, laisse-les tranquilles.
Un rire secoua Vipéra, comme un éternuement. Vipéra en cracha un crapaud vert qu'elle mâchait depuis plusieurs jours. Les sorcières se servent souvent des crapauds comme chewing-gum, entre autres utilisations.
« Est-ce bien toi, Margot? Toi, la petite fille timide et sage que j'ai connue? Je ne te reconnais pas. C'est ta laideur qui te rend si agressive. Tu comprends maintenant pourquoi je suis devenue sorcière? Bien, soyons sérieuses. Margot, sache que je n'oblige personne à entrer dans mon magasin. Je ne suis qu'une commerçante presque en retraite. Je les force encore moins à acheter.
« Alors va-t'en, » continua Margot sur le même ton. « Laisse-les tranquilles sans ton anthésie. Ils finiront par redevenir comme avant. Vipéra, l'anthésie, ce n'est pas de l'orage. »«
Petite fouineuse !»
siffla Vipéra, toujours la même finalement.
« Qui t'a parlé de tout ça ? Enfin, je m'en fiche après tout. Entre nous, Margot, puisque tu es au courant, tu comprendras que je ne vais pas m'en aller maintenant, au moment où mes affaires n'ont jamais aussi bien marché.
Alors, tant pis pour toi,
déclara courageusement Margot.
Je te défie, et si tu perds, tu me jures d'arrêter de vendre quoi que ce soit aux enfants.
Me défier? Mais à quoi, ma pauvre Margot? Que veux-tu gagner contre moi, à part peut-être un concours de laideur?
Margot hésita pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le magasin. Ce courage inexplicable qui l'avait poussée à entrer lui permettait de répliquer à Vipéra, mais elle n'avait aucun plan en tête. Qu'est-ce qu'elle savait faire? Face à une sorcière? À son âge? C'est vrai qu'elle était devenue si laide, peut-être plus laide que Vipéra. Alors Margot répondit bêtement la première chose qui lui passa par la tête.
Des grimaces. Je te défie à un concours de grimaces.
Vipéra faillit s'étrangler de rire. Ça aurait bien arrangé Margot. Elle en cracha une araignée qu'elle suçait depuis une semaine.
Les araignées servent de cachou aux sorcières, entre autres utilisations.
Des grimaces, s'esclaffa Vipéra. Mais les grimaces, c'est justement la spécialité des sorcières, ma pauvre Margot. Je te savais pas bien maligne, mais à ce point...
Alors, vas-y, jure, si tu perds, tu fermes la boutique.
Si tu veux, je le jure.
Mais Margot savait au moins qu'il ne faut jamais faire confiance aux sorcières.
Jure-le sur le grand livre noir.
Le grand livre noir, c'est un peu comme la Bible ou le Coran pour les sorcières. Vipéra hésita un peu.
Jurer sur le grand livre noir, ce n'était pas rien.
Mais, après tout, qu'est-ce qu'elle risquait contre cette pauvre Margot?
Si tu veux, je le jure sur le grand livre noir. On commence. Celle qui fait peur à l'autre a gagné.
Alors Vipéra exécuta des grimaces terribles, avec son nez, son menton, ses oreilles. Des grimaces à faire fuir n'importe qui, mais pas Margot. Margot, aujourd'hui, n'avait rien à craindre du côté du courage. Margot essaya à son tour quelques grimaces, qui n'auraient pas fait peur à une mouche, ni même à un bébé mouche. Vipéra riait à s'étouffer. Mais elle n'avait plus ni crapaud, ni araignée à cracher.
« Ma pauvre !»
dit enfin Vipéra.
« Si tu appelles cela des grimaces, reconnais que tu as perdu.
Non, je ne t'ai pas fait peur, d'accord, mais tes grimaces ne m'ont pas effrayé non plus. Il faut autre chose pour nous départager. »
Une lueur passa dans le regard de Margot que Vipéra, trop sûr d'elle, ne remarqua pas.
Tiens, parions sur une grimace très difficile à exécuter. Celle qui est capable de mordre son œil a gagné. »
Mordre son œil. Vipéra était capable de déformer sa bouche, d'étirer la peau de son visage dans tous les sens comme de l'élastique. Mais mordre son œil était difficile, très difficile, impossible même, parce qu'elle était très embarrassée par son immense menton. Il faut savoir que chez les sorcières, la distinction se fait par le menton. Une sorcière débutante voit pousser un jour un double menton. Au fur et à mesure qu'elle gagne de l'expérience, passe des diplômes, elle atteint le rang de triple menton, quadruple menton. Vipéra avait atteint le stade de sextuple menton, ce qui était déjà très rare pour une sorcière. Elle comptait même obtenir un menton supplémentaire pour être parvenue à isoler l'antésie. Et même si l'on ne fait pas partie du camp des sorcières, on est bien obligé de reconnaître qu'une telle découverte le méritait bien. Mais, pour l'instant, Vipéra était très embêtée avec son sextuple menton. Elle avait beau déformer sa bouche dans tous les sens, le menton venait avec et touchait l'œil, le perçait presque, parce qu'un sextuple menton, c'est terriblement pointu. Impossible de se mordre l'œil sans se le crever. Son grand nez crochu n'arrangeait rien non plus. Mordre son œil était sans doute la seule grimace que Vipéra ne pouvait pas exécuter.
« Ce n'est pas grave, » se disait Vipéra. « Je ne vois pas comment Margot pourrait être capable de mordre son œil. Il lui faudrait de la magie, et personne n'est moins magicienne que Margot. »
Alors Margot, tranquillement, retira son œil gauche de son orbite. C'était un œil de verre. Margot le portait depuis 10 ans. La vieillesse. Mais personne n'était au courant. La coquetterie. Il y a des choses qu'une reine, même très âgée, n'aime pas avouer. Doucement, Margot croqua son œil de verre en faisant bien attention de ne pas le rayer. Puis elle le remit à sa place.
« C'est de la triche !»
hurla Vipéra verte de rage.
« Tu n'as pas le droit, ce n'est pas une grimace !»«
Taratata !»
répondit Margot rayonnante.
« Tu vas devoir fermer boutique !»«
Jamais !»
cria Vipéra.
« N'oublie pas que tu as juré, Vipéra, sur le grand livre noir !»
Vipéra voyait mal comment elle allait s'en sortir. « Fermer boutique maintenant ? Non, ce serait trop bête. Au moment où elle allait obtenir son 7e menton, mais elle avait juré sur le grand livre noir. Et par jurer le grand livre noir, autant ne pas y penser. Ce serait un coup à se retrouver directement avec un simple double menton, et encore.
« Donne-moi une seconde chance, Margot !» demanda alors Vipéra. « S'il te plaît, si je gagne, je garde le magasin, mais si je perds, non seulement je ferme le magasin, mais en plus, je fais mes valises, je disparais de la région et je m'engage à ne plus jamais revenir. »
« Tu le jures ?»«
Je le jure !»« Sur le grand livre noir !»« Je le jure sur le grand livre noir !»
déclara Vipéra à contre-cœur.
« Bien !» dit alors Margot. « Celle qui gagne est celle qui sera capable de se mordre l'autre œil. »
Bien entendu, Vipéra ne fut pas plus capable de se mordre son second œil.
Mais, se disait-elle, ce n'est pas grave. Il est tout aussi impossible que Margot puisse mordre son second œil. Elle ne peut pas avoir 2 yeux de verre, sinon elle n'y verrait rien. Sans magie, c'est impossible. Et il n'y a personne de moins magicienne que Margot.
Alors Margot eut un grand sourire. Un grand sourire de ses belles dents bien blanches. Elle semblait même la seule chose qui n'ait pas vieilli chez Margot, à côté des quelques chicots noirs de Vipéra.
« Trop blanche !»
se dit Vipéra. Trop tard, elle avait juré. Tranquillement, Margot retira son dentier et alla tout doucement mordre son œil droit, en faisant bien attention de ne pas se pincer. Elle fit tout de même un petit « aïe », mais c'était surtout pour narguer Vipéra. Puis, aussi doucement, elle remit le dentier à sa place.
Vipéra poussa un hurlement de rage. La boutique Antésie fut fermée le soir même. Personne ne revit jamais plus Vipéra dans la région. Les enfants passèrent par des moments très difficiles au début. Ils attendaient des heures devant la boutique fermée de Vipéra. Puis, ils rentraient chez eux très énervés, méchants, violents, parfois. Après quelque temps, ils allèrent faire leurs courses ailleurs, dans des boutiques qui vendaient les mêmes produits, mais avec beaucoup moins d'antésie. Alors la mode passa très vite. Les kamikazes et les esquimaux reprirent le championnat et se remirent à crier. Les voisins et leurs chiens réinstallèrent dans leur cour la table de jardin et se remirent à crier. Les maîtresses perdirent peu à peu l'habitude de prendre le café bien au chaud et se remirent à crier. Tout exactement comme avant. Quelques mois plus tard, on détruisit la boutique Antésie. On parla un moment de faire un parking à la place, ou un square, ou une maison pour personnes âgées, ou une autre école. Finalement, il paraît que l'on va construire une banque. Il paraît même que, puisque la banque sera juste en face de l'école, tous les enfants auront le droit d'ouvrir gratuitement un compte. C'est le futur directeur de la banque qui l'a dit. Il est passé une fois, un monsieur bizarre, avec un quintuple menton.